C'est l'heure de Meilleur Espoir. Je reçois un ou une invitée dont je pense qu'elle ou il est une figure montante du cinéma français. Au cours d'un entretien libre, mon meilleur espoir du jour partage avec moi et avec vous tout ce qui permet d'entrouvrir la porte sur sa personnalité et sur ce qui le constitue en tant qu'artiste. Une émission d'Audrey Forestier sur Radio Campus Paris est disponible en podcast sur toutes les plateformes dédiées.
Le César de la meilleure espoir féminine.
Le César du meilleur espoir féminin.
Une espoir, c'est pas français, c'est un espoir.
Son César du meilleur espoir féminin.
Du meilleur espoir féminin.
Le César du meilleur espoir masculin.
Das meilleur espoir féminin.
Le César du meilleur espoir féminin.
Vous faites le plus beau métier du monde.
Ah bah, j'ai déchiré le papier en deux, ça commence bien.
Quand j'étais jeune adolescente, j'étais super fan d'un teen movie qui s'appelait The Craft, traduit en français par « Dangereuse Alliance ». En gros, c'était l'histoire de quatre adolescentes américaines qui s'essayent à la magie jusqu'à ce que leur nouveau pouvoir ne leur monte à la tête et que tout ne bascule dans le film d'horreur. Les actrices étaient canon, c'était quand même avec Neve Campbell, la BO hyper cool et le potentiel de fantasme et d'identification de 190%. Mon meilleur espoir pourrait jouer dans le remake français, à ceci près qu'il ne chercherait pas à assassiner son boyfriend inconstant. Par conséquent, imaginez plutôt un mélange de Maître Yoda et d'Albus Dumbledore dans le corps d'un trentenaire à la peau dorée par le soleil de Cavaillon. Ses amis le décrivent comme un être profondément bienveillant, attentif aux autres, enclin à la spiritualité et sage. À l'écran, que ce soit dans Ténor de Claude Zidi Jr. ou encore dans Le Dernier Mercenaire aux côtés de Jean-Claude Van Damme, ce qui frappe, c'est sa drôlerie et une maladresse touchante, une fraîcheur qui donne immédiatement envie de l'avoir dans sa bande. Mon meilleur espoir nous révélera-t-il son secret pour parler avec les chats? Comment la lune l'a-t-elle influencé aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir avec Samir Decaza. Salut Samir.
Oh waouh. Merci. Merci pour la présentation, très jolie. C'est ma première présentation en français, j'aime beaucoup.
Tant mieux.
Que quelqu'un me présente. Mais t'as parlé avec qui?
Ah, je parlais avec une personne qui m'a dit que tu lui avais conseillé de mettre des aimants sous son matelas.
Ah, je le conseille à beaucoup de gens.
À quoi ça sert?
Pardon, ça réaligne beaucoup de choses. C'est, on est plein d'énergie, on a besoin à certains moments de les réaligner et ça passe par une petite cure d'aimant sous son matelas.
Ok. Bon, c'est Frankie Valak.
Ah. Oui, c'est vrai. C'est pas vraiment des aimants, c'est du plomb.
Bon, alors moi j'aime bien surprendre un peu mes invités, mais là je dois reconnaître qu'aujourd'hui c'est moi qui ai été surprise. Parce que déjà, je suis arrivée, j'avais des cadeaux. Alors ça, c'est quand même la première fois. Et j'aimerais bien que tu me refasses explication de cet objet-là en particulier. Donc voilà, je le pose sur la table. Essaye de nous le décrire, s'il te plaît.
C'est un petit mug en terre cuite, naturel, non teinté, qui est peint avec une mélasse qu'on appelle le ghitrane en arabe, et qui est un mélange de bois brûlé, qui se mélange à de l'huile de cade, etc. Et en fait, c'est le fait de mettre de l'eau dans des conteneurs en terre cuite naturelle, plus l'apport de ce petit parfum boisé de oud brûlé, ça rafraîchit l'eau, en fait, au flair. Donc ça rend l'eau beaucoup plus désaltérante. Et surtout, le fait de mettre de l'eau dans un récipient en argile sain, comme ça, ça filtre l'eau. Ça filtre beaucoup de mauvaises particules de l'eau. Du coup, souvent, dans les maisons marocaines, on a des grosses jarres en terre cuite et on laisse l'eau des puits dedans, enfin, l'eau du robinet. Parce qu'ensuite, quand on la récolte, regarde, on peut sentir en fait que le verre, il est mouillé de l'autre côté. Tu vois, parce qu'on le fait tremper.
Ouais.
Et du coup, en fait, tu auras toujours l'impression que le verre, il est mouillé de l'autre côté, il va quand même commencer à perler un petit peu.
D'accord.
Parce qu'il y a toute une magie qui opère.
Alors, je sais pas si on l'entendra à l'antenne, mais on a été interrompu par un de tes amis.
Oui.
Pourquoi? Comment ça se fait? Et où est-ce qu'on est, Samir?
Alors, ici, on est chez Eker. C'est une chicha. C'est un restaurant turc qui fait chicha, qui est situé juste sur les grands boulevards entre le théâtre du gymnase et le Jamel Comedy Club. Et c'est là où on traîne depuis, en tout cas moi depuis que je suis arrivé à Paris, c'est là où je traîne et du coup mes amis ont appris à traîner avec moi ici. C'est un petit peu notre QG, on passe, on se pose. Je me rappelle, ben, mon ami qui est là, il avait fait la couverture du Monde, je crois. C'est la on avait posé pour le Monde ici. C'est ça? C'est la couve en plus.
Ouais.
On a fêté la caméra d'or, par exemple, du film Divine de Outa Benyamina ici. On a fêté plein d'anniversaires. Plein d'anniversaires. Et le truc, c'est pourquoi on vient ici, parce que là, tu vois, il y a une grosse enceinte.
Ouais.
Et ils nous laissent mettre la musique à fond.
Ok.
Voilà. Donc, en fait, on prend des gâteaux, on prend à boire, etc. Et on se fait des poissons, on fait des grandes parties de loup-garou.
Ah, oh, j'adore.
Ah, ben, la prochaine. Attends. Ah, ben, la prochaine, ah, tu vois, attends. Pas.
Alors, moi, je joue à une autre, enfin, c'est le même principe. Ça s'appelle le Secret Hitler. Tu connais pas ça?
Le Secret Hitler?
Ouais, le Secret Hitler. C'est la même mécanique de jeu que le loup-garou.
Ouais.
Mais en fait, tu dois démasquer Hitler, le tuer.
Et les autres?
Et démasquer les fascistes. Évidemment, tout le monde dit qu'il n'est pas fasciste, tu vois.
Mais qui est juif?
Ah, ils ne sont pas là.
Ah, il est sombre, le vieux. On fera.
Ok, donc tu fais des parties de loup-garou.
Loup-garou, et après on danse.
Ah, ben ouais.
Après on met la musique.
Quelle musique tu nous mettrais pendant une soirée? Vas-y, je t'écoute.
Moi, la playlist, enfin, pour une soirée, j'aime bien ton boulot de Kalash. C'est bien, c'est mélancolique. C'est très, 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 très politique. Parce que c'est la musique qui vient des ghettos antillais et c'est très cru. C'est très anti-système, c'est très anti-capitaliste, c'est assez très enragé en fait. Donc et tout est dit dedans. Donc franchement, plus le rythme qui est incroyable, j'aime bien danser sur des trucs mélancoliques.
Ça, c'est celle que tu nous mettras en soirée.
Ouais.
Et les autres, du coup, qu'on écoutera ensemble.
Les autres, moi, c'est ma préférée, c'est Les gens qui doutent, Anne Sylvestre. C'est comme si ça sortait de ma tête. C'est quelque chose que je ressens chaque mot, chaque vers, c'est de la poésie. Je ressens tout ce qui est dit dans... Parce qu'elle aime tout le monde, en fait. Elle porte un message d'amour ou elle, par principe d'empathie, elle arrive à ressentir la douleur des autres et à voir leur côté, pas ce qu'ils jouent en société, mais en tout cas leur côté plus touchant. Et ça, on arrive à le percevoir chez les gens quand on aime les gens. Donc, et un jour, voilà, un jour, je l'ai écouté, ça résonnait énormément. Et puis, elle dit un truc de ouf, à un moment, elle dit, ceux qui, pour pas que ça nous gêne, avec, leur peine, un truc comme ça, font des bruits de grelots. Trop beau. Après, j'aime bien Pyramide de Frank Ocean. Je sais pas, c'est un classique cool, ça s'écoute de partout, tout le temps, le matin, le soir, quand t'es posé, quand tu fais la fête. C'est un son cool. Et après, j'aime beaucoup Lova Olvidar de Rosalía et Billie Eilish. Parce que c'est un nouveau son, mais qui a marqué un très beau moment dans ma vie. Le mariage de Frankie. C'est le plus beau truc auquel je suis allé dans la vie. C'est une œuvre d'art, le bordel. Que Dieu la bénisse et la protège. C'était magnifique. C'était trop d'amour. Mais je vais dire juste un truc. Frankie, c'est quelqu'un qui marche à l'amour, qui a trouvé un amoureux, qu'il a trouvé très très tôt parce que son mari, maintenant, c'est quelqu'un qu'elle connaît depuis 20 ans, depuis qu'ils ont 10 ans, depuis tout petit. Et elle avait un carnet, elle l'a écrit qu'elle allait épouser. Et elle l'a épousé plus tard, dans un mariage que même elle n'aurait pas rêvé. Parce qu'à un moment, bon, c'était au Mexique, donc c'était sur plusieurs jours en plus, et je me rappelle juste du meilleur moment, en tout cas moi, que je trouve qui est inédit, qu'on peut vivre nulle part. C'est un moment vers minuit, 1h du matin, on est en train de danser sur le sable, il y a les paliers, on est à 20 mètres de l'eau, il y a une lune, 30 degrés, c'est le Mexique, le sable est blanc, il y a de la bonne musique, parce qu'en plus de ça, c'est les DJ sont ses amis, et... on entend un petit soubresaut sur la piste de danse de meufs qui commencent à crier « Ah !» Et en fait, on se rend compte qu'un endroit précis venait d'éclore un nid de bébé tortue.
Mais non.
La tête de ma mère.
Oh,
et tous les invités, on a dû se retrouver à mettre un bébé tortue à la mer pour pas qu'il traverse tout seul, parce qu'en plus de ça, ils avaient été un peu déréglés par la musique et tout. Mais le truc, c'est que l'hôtel, quand il loue cet endroit-là, il savait pas qu'en fait, c'était une zone de pente. Et du coup, on s'est retrouvé sur une zone de pente. Et en fait, il trouvait ça hyper touchant que de voir que Dieu a offert à nous à ce moment-là l'opportunité d'accompagner la vie tellement précieuse en plus, parce qu'on parle de tortue marine, de ces créatures-là et de vivre cette expérience-là. Moi, cette expérience-là, de l'avoir à la télé, là-bas, tu vois. Donc, l'éclosion d'un nid de bébé tortue, je pensais pas y assister. Et encore moins, à un moment où on est dans un summum d'amour, où on est dans un summum de... C'était un miracle. Pour moi, c'est un miracle.
Magnifique.
Voilà.
Histoire magnifique.
Ça l'est, je suis content que ça soit magnifique. Tu te dis à un moment, tu te dis, est-ce que c'est toi qui en fais trop? Est-ce que c'est toi qui vis le truc trop haut ou quoi? Mm-hmm. Mais non. Et là, il n'y a que des amis. C'est...
Vous en parlez entre vous, des fois? De l'anecdote
moi,
de
le répète à chaque fois, ils doivent en avoir marre. Moi, ça m'a trop choqué. Moi, je m'attendais pas à ce que dans ma vie, je vive un moment pareil lors d'un moment aussi fort en amour. Donc, c'est magnifique. Les enfants sont contents. Tout le monde est content. Il y a plusieurs générations. Tout le monde est sur la même ligne. Et voilà. Donc, tout était magique. Et, alhamdoulilah, je suis content d'avoir vécu ce moment.
Trop bien.
Si no me perdonas, ¿qué harás con todo este veneno tan bueno? Dime si me echa de menos.
Meilleur espoir, un vendredi sur 4 à 20h sur Radio Campus Paris.
Je reviens sur le fait que tu aies fêté la caméra d'or de Divine ici, parce que celle qui a donné ton nom, elles étaient nombreuses à vouloir donner ton nom. Il y avait Francky Valla qui a beaucoup hésité, et c'est finalement Jiska Kalanda qui a donné ton nom pour que tu viennes. Comment tu l'as connue, Jiska? Et c'est qui pour toi dans ta vie?
Ah là là, Jiska. Jiska, c'est la seule personne dont je suis sûr qu'on va se connaître jusqu'à la mort. Vraiment. Vraiment se connaître. Genre, continuer de se fréquenter, même très très vieux. D'ailleurs, sur mon téléphone, elle s'appelle Jusqu'à la mort quand elle m'appelle. Et on s'est connus à l'association Mille Visages, qui a été créée par Ouda Beniamina pour démocratiser un peu le cinéma dans les banlieues. À l'époque, c'était à Grigny. Et on s'est connus là-bas parce qu'elle est de Viry-Châtillon. Et c'est la meilleure amie d'Ouleya. Donc, elle venait à l'association parce que Ouda était en train d'écrire son film, et il y avait plein de stages, il y avait plein de trucs comme ça, et c'était cool. La porte était ouverte, et t'arrivais, t'avais des cours de théâtre gratuits, par une méthode d'enseigne cool et tout, qui savait nous parler, nous écouter, et avec qui on se sentait à l'aise. Et du coup, c'est là où j'ai rencontré Ouleya et Jiska. C'était il y a 2014.
Ouais, donc c'est une amitié qui dure.
C'est en avant, c'est ouais. Très bien, déjà, c'est cool.
Ouais, ouais. Et là, tu atterris à peine. Parce que donc, tu m'as ramené tous ces beaux cadeaux du Maroc. Mais tu y étais quand même pour le travail aussi.
Oui.
Est-ce que tu veux m'en parler ou est-ce que c'est prématuré?
Non, non. Ça fait des années que j'ai rêvé de faire un documentaire. Et en fait, c'est on a notre Halloween à nous aussi. Personne ne le sait. Et c'est une ancienne tradition juive bien ancestrale, ni païenne, ni un truc. C'est le lendemain de l'Aïd, après le sacrifice du mouton, dans les montagnes de Sousse, c'est-à-dire c'est le bas vers Agadir, etc. Les garçons, ça marque aussi un peu leur entrée dans l'adolescence, s'habillent en créature démoniaque, avec plein de peaux de chèvre, et c'est toi qui dois tout le long de l'année aller te trouver les peaux de chèvre et venir les tanner tout seul, les parfumer tout seul et construire ton costume tout seul. Et genre, plus t'as de peaux de chèvre, plus ton costume est beau. Genre, il y en a, ils ont 16 peaux de chèvre. En plus, c'est hyper lourd. Et ils se maquillent, en plus. Et ils vont dans la rue. Et, genre, ils ont deux pattes de chèvre accrochées à une corde et ils te tapent avec si t'as pas de l'argent à leur donner. Et en général, les gens préfèrent se faire taper parce que cette tape, elle ramène une baraka. Genre, elle porte bonheur. Voilà. Et donc, ça faisait des années que je connaissais ça. C'est les tribus berbères qui font encore ça. Et je voulais mettre en lumière un peu cette fête-là parce que c'est l'équivalent, del Día de Muertos au Mexique à Oaxaca. C'est l'équivalent, d'Halloween à New York. C'est l'équivalent. Et c'est génial. C'est incroyable. C'est la incroyable. Solidarité entre les garçons. Et du coup, oui. Il y a tout un truc qui se fait. En fait, eux, ils arrêtent qui dans la rue? Ils arrêtent les filles. Tu vois, donc ils arrêtent les filles et c'est le seul moment un petit peu de l'année puisqu'on est dans des sociétés quand même assez religieuses et tout, c'est le seul moment où il peut y avoir un contact physique.
Ok.
Tu vois.
Ok.
Donc ils commencent par cette petite tape, ce qui est très paradoxal.
Mais en tout cas, c'est un peu coquin. En
vrai. Oui, c'est très coquin parce qu'elles adorent, elles sont là, elles se battent, elles sont non, me tape pas et tout. C'est trop drôle. Moi, j'observais ça, j'étais mais fascinée parce qu'en plus elles se mettent en travers du chemin des garçons. Genre non, mais tu me tapes pas. Et genre ils disent non, mais si, j'ai obligé de donner la baraka et un petit coup comme ça. Après, elles rigolent. Ou alors il y en a qui s'habillent tout en huile noire. Et du coup, en fait, en passant, ils te salissent.
Ah, et après, tu la marques sur toi.
Voilà, t'as plein de marques sur toi. Donc, c'est...
Tu l'as déjà faite, cette fête? Tu t'es fait, mis, toi, les peaux?
Non. J'ai essayé de porter un de leurs costumes. Mais en plus, c'est... Même si c'est bien tanné et tout, il reste une petite odeur, tu vois. Et en plus, ils te le disent. Tu leur dis, mais les gars, la tienne, elle pue. Il fait, non, c'est comme ça. Il faut que ça sente l'animal, le truc. Il faut que ça sente la peau, comme ça, c'est une vraie peau, c'est pas comme les gens qui vont acheter des peaux déjà toutes tannées, toutes neuves à Ikea ou je sais pas quoi, et qui viennent, qui font des costumes tout légers. Il fait, c'est pas le but du jeu, c'est porter un truc hyper lourd, c'est tu montres un peu ta virilité avec, il y a tout un schéma du passage à l'adolescence qui se joue en fait dans cette fête-là. Et c'est très cool de voir
c'est
ça.
C'est hyper intéressant. Ouais. Donc ce serait un documentaire là-dessus. Mais que tu... Là, t'es parti faire quoi? Des repérages? Des choses comme ça?
Non, je l'ai fait. Je prends ma caméra.
Ah, tu l'as fait?
Ouais.
C'est vrai?
Ouais.
C'est fait?
Ouais. Et on sait encore mieux. Parce que je m'attendais à rester dans une grande ville. On m'a appelé dans une petite ville. Je suis allé dormir chez des gens. Le truc, le Nutella cacao, c'est eux qui l'ont fait.
Ah oui, parce que Samir m'a offert un Nutella marocain, vraiment maison,
M-Lou,
avec de l'arachide dedans, en dépit de tous les efforts que je concentre pour perdre mes kilos de grossesse. Samir est là pour me décourager, mais ça a l'air délicieux.
C'est hyper bio, ouais. Il n'y a pas de l'huile de palme ou quoi, c'est de l'huile d'olive, du miel et des arachides broyés. Il n'y a rien de plus, et c'est des arachides du pays, ça vient de là.
Ouais, c'est... donc c'est pas si fat que ça final, mais non, je peux y aller. Bon, alors, du coup, je reviens sur le documentaire.
Non, c'était cool. Je suis tombé chez des gens, mais incroyables. Tellement que je me suis dit, mais en fait, ce documentaire, c'est pas, je le fais pas sur cette fête. Cette fête-là me permet de connaître ces gens-là. C'est que je suis tombé dans un village. Du coup, un soir, je suis arrivé, j'ai pris des photos un petit peu de tout le monde. En plus, c'est un village qui est tenu par les mafieux du shit. Hein. C'est un village qui est vraiment, donc il y a tout un problème politique où les jeunes, ils ont rien de rien. Et j'ai fait des photos un petit peu tout le monde, et du coup, au lendemain, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre ma caméra, je vais aller filmer en fait tout le processus, parce que ça dure sur 2 semaines, hein. 2 semaines qu'ils s'habillent et tout, un jour c'est repos, et en fait, chaque ville, elle fait sa soirée. Jusqu'à là, le 21, ça sera la grande soirée à Agadir, c'est un défilé énorme, on dirait Rio de Janeiro, le truc, c'est l'un des plus grands carnavals d'Afrique, parce que c'est le district d'Agadir, c'est l'un des plus grands d'Afrique. Ouais. C'est vraiment un truc à vivre. Et du coup, je suis tombé sur cette famille. Il y a un mec qui m'a envoyé un message sur Insta. Je lui dis, bon, mais est-ce que ça vous dit que je viens vous filmer? Et toi, il me dit, viens. Mais du coup, c'était très hors de la ville. C'était dans un petit village. Et en fait, je tombe sur son père, il est professeur dans cette ville. Et il a plein de problèmes avec la politique de la ville, parce que il se bat pour qu'il y ait des trucs dans la ville pour les enfants. Il y a pas un parc, il y a rien. Il y a du sable. Mmh. Voilà. Et des cafés. Et voilà. Et les meufs, les femmes, elles ont rien. Et donc, et ce mec-là, j'ai vu tout ce qu'il a fait. Genre, il a monté une salle de classe pour enfants en ramassant des trucs de la poubelle. Et à un moment, ce qui m'a touché, c'est que je savais même pas qu'ils étaient. Il regarde toujours les infos. Et il lit plein de livres. Et le mec, il a appris à parler français tout seul, parce qu'il parle très bien français. Et il se bat dans cette ville-là pour un petit peu plus d'enseignement. Et à un moment, un matin, il est venu voir, il me dit, j'ai écrit un poème. Il écrit des poèmes de ouf. Et il me dit, j'ai écrit un poème. Et je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que hier, j'ai vu ce qu'ils ont fait à Naël, en France. Et il a écrit un poème sur la police qui me récite comme ça. Le mec, il est perdu à Temsia, un petit village du sud d'Agadir, dans le sud du Maroc. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, il n'y a rien du tout. Et le mec, il est là, il te jure que son poème sur la police et sur les violences entre êtres humains aujourd'hui, il est incroyable.
Est-ce que tu as déjà un titre?
Non, c'est le... Non. Non, non, je me suis dit que j'allais le laisser jusqu'à la fin. Il allait apparaître à la fin, le titre.
Ok, ouais. Très bien. Samir, est-ce que tu veux qu'on passe à la phase carte de couleur ou est-ce qu'il y a des sujets comme ça, a priori, que tu voudrais qu'on aborde, qui te tiendra à cœur et dont tu voudrais parler?
Moi, j'aime bien poser la question aux gens en général que je rencontre, puisque là, c'est une rencontre, même si je sais que c'est une question assez intime en général, et libre à toi d'y répondre ou pas. Est-ce que tu crois en Dieu? Et si oui, que penses-tu de son humanité?
Ah, ça c'est vraiment une question qui me préoccupe beaucoup. Donc moi je suis d'une famille mixte. J'ai un papa qui est plutôt de culture catholique, non pratiquant, et j'ai une maman qui est musulmane. Et du coup moi j'ai passé une enfance où j'étais très proche de ma mère. Je suis aussi plus proche de sa foi et de sa religion. Mais... pourtant, je peux pas dire que je suis musulmane, mais par contre, je crois en Dieu. Mais ce qui me dérange avec la religion, c'est le dogme. Mmh. C'est vraiment le fait qu'il y ait des règles, alors que ma croyance en Dieu, elle est vraiment dans mon cœur, quoi. Et j'invente pas de nouvelles règles, juste j'essaye d'être une bonne personne pour pas le décevoir, tu vois. C'est plutôt un truc comme ça, tu vois, pour pas être en disgrâce au regard de Dieu. Mais souvent, si on me dit, bah, tu vois, toi, tu crois en Dieu, mais regarde ce qui s'est passé. Je me dis, oui, mais en même temps, Dieu, il nous laisse aussi faire, tu vois.
Il nous laisse faire plus que nous laissons faire entre
ouais,
nous.
Ouais, j'ai l'impression, déjà. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est bien, souvent, on lui prête des choses.
Ouais.
C'est nous, en fait. Hein, c'est nos fantasmes à nous.
Ouais,
mais...
ouais. C'est comme un peu la définition un petit peu du diable aussi en islam. Quand c'est un petit peu poussé, c'est... On te dit que le diable, il ne fait que te susurrer à l'oreille. C'est-à-dire qu'il t'a pas pris par la main, il t'a pas poussé à faire
voilà,
quelque chose de contre quelqu'un d'autre, tu vois. Donc en général, remettre aussi les choses sur le diable, sur le c'est l'être humain, hein, c'est la complexité de l'être humain avec lui-même, comment. En tout cas, je pense que je suis d'accord avec toi. C'est pour moi c'est la même chose. Croire en Dieu, c'est croire en sa création, l'aimer autant que lui, la respecter autant et soi-même aussi. Tout comme on aimerait être respecté soi-même, en fait c'est être à égalité mais sincère avec les humains, c'est-à-dire respecter le champ de liberté de chacun et se être bienveillant. C'est un bonjour, tu sais, c'est de en islam on te dit c'est un petit simple un sourire, c'est une bonne action. T'es là le matin si tu vois quelqu'un, on est dans une société où on se tire tous la tronche de bon matin. Il y a des énergies en fait qu'on voit pas et les prières comme ça elles nous bénissent les uns les autres, tu vois, ne serait-ce que par la pensée. Quand tu sens que quelqu'un te sourit ou te dit bonjour, il y a de plus en plus de vieilles, de plus en plus de personnes solitaires, dire bonjour aux mamies le matin, moi, je suis content quand je le fais, et ce que ça me renvoie, parce que voir une mamie avec un grand sourire qui va peut-être penser qu'à toi toute la journée parce qu'il y a que toi qui lui a dit bonjour, je peux t'assurer que c'est de la bénédiction. C'est une pensée, quelqu'un qui pense à toi en bien. Donc il y a un truc qui se déverse sur toi, on le voit pas, c'est une énergie, mais c'est pour moi c'est ça.
Si par exemple tu t'avais dit moi je crois pas du tout en Dieu, je suis complètement athée.
Moi j'aimerais bien quelqu'un qui me moi par exemple pour ma propre foi en fait j'ai dû la trouver tout seul. Tu vois, moi, je suis né musulman. Donc, c'est autre chose quand tu es musulman, tu vois. T'as pas choisi. Mais en fait, c'est n'importe quelle religion. Tu te poses pas la question. Et après, tu commences à te dire, ouais, mais moi, je suis né dedans. Mais ça veut dire, si j'étais né dans une autre religion, puisqu'en général, quand tu as une religion, tu dis que l'autre, c'est la mauvaise, tu vois. Tu dis, mais si j'étais né là-bas, ben, je serais né parmi les mauvais, ou genre parmi les perdus, ou quoi. Du coup, tu commences à te poser plein de questions. Et après, en fait, ben, tu remets tout à zéro. C'est comme si tu perdais la foi, mais volontairement. Où tu vas chercher Dieu à ta manière, tu vois. Et à partir de là, j'ai réétudié un petit peu tout ça, historiquement, etc. Je me dis.
Mais en tout cas, aujourd'hui, tu dirais que t'es musulman parce que si tu choisis de l'être, en fait.
Absolument.
C'est plus un déterminisme familial ou culturel,
non,
quoi.
Ouais. Plus du tout. Mmh. Mais moi, je considère l'humanité comme une masse évoluante. Et à travers l'histoire, à travers ce que nous ont laissé nos anciens, à travers les livres, en tout cas les moments par exemple en fait où Dieu l'unique a essayé de communiquer avec l'homme depuis Gilgamesh, depuis Moïse, depuis sur 5000 ans, ben tu prends tous les livres, hein, vraiment tous, la Torah, le Talmud, l'Évangile, le Coran et tout, tu mélanges tout et tu vois toutes les similitudes, toutes, et tu en ressors la même chose, totalement la même chose. Donc moi, pour moi, un bon croyant, enfin croyant, quelqu'un qui croit en Dieu, c'est pas une histoire de religion musulman-chrétien, non. C'est quelqu'un qui est un bon chrétien, un bon musulman, un bon juif, un bon agnostique. C'est-à-dire quelqu'un qui croit en Dieu, donc il croit en l'amour, donc il laisse tranquille les gens, et il essaie d'aller de bienveillance en bienveillance. C'est ça, tirer l'humanité vers le haut, et pas juste vers... aujourd'hui, il y a tout le monde qui est très égocentré, très, très... dans une société de consommation, on sait même plus pourquoi on bouffe, on réfléchit même plus à la grandeur de la vie. C'est l'impression que les gens sont un peu mort-vivants, quoi. On te dit, pour moi, c'est un secret qu'on donne à l'humanité, et l'humanité, elle n'en fait rien. C'est on te dit, tu ne seras ni oppresseur, ni opprimé. Pour moi, c'est tous égaux, les gars. On se montre des petits systèmes tranquilles, on n'a pas le gros ventre, si nous avons autant de confort, c'est parce qu'on en a pourvu d'autres ailleurs. Et ça, quand t'en as conscience, déjà, tu te dis, il faut se calmer un petit peu, et parce que t'as pas choisi où t'es né. Les gens, ils vivent comme ça, là. Ça achète des habits, des trucs, des téléphones, plein de trucs, et toujours plein de trucs, encore plus de trucs et tout. Mais il y a des gens qui les fabriquent ailleurs, ces trucs-là, et qui vendent leur âme au diable pour les fabriquer, parce que c'est pour nous servir, nous. Donc venez juste, on réégalise.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leurs chaînes, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foutent la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
On peut dire que déjà tu as répondu à la carte Dieu et religion. Si on tombe dessus, je pense qu'on pourra l'éliminer direct. Est-ce que tu veux commencer à tirer? T'as pris complètement au hasard.
Waouh. Nuit.
Nuit.
J'aime beaucoup la nuit. Je sais pas, depuis tout petit, la nuit, ça me traumatise, mais ça m'intrigue. Je sais pas, quand j'étais petit, je dormais pas. Surtout les jours de pleine lune. J'ai jamais dormi un jour de pleine lune. Mais depuis tout petit. Et mes parents savaient pas, mais je passais la nuit réveillé dans ma chambre. Avec la lune qui éclairait, t'avais toujours un éclair qui rentrait comme ça, je sais pas. Je me sentais invincible, je sais pas, je me sentais...
Tu te sens en sécurité la nuit? C'est ton...
C'est quand il y a la lune.
D'accord.
Quand il y a la lune. Et après, non, même la nuit, j'aime bien, c'est cool, c'est calme. C'est un petit peu effrayant, c'est mystérieux, c'est bien intéressant que le jour.
Ok, très bien.
Et une autre?
Allez.
Allez, hop. École. École. Qu'est-ce qui me vient de dire à toi? École.
T'étais quel élève? Voilà. Quel souvenir t'as gardé de l'école? Des bons souvenirs, des mauvais?
J'ai gardé des bons souvenirs avec les bonnes personnes et des mauvais souvenirs avec les mauvaises personnes. Je me rappelle juste que j'ai une maîtresse d'école. C'était la femme du directeur. Et j'étais encore en école privée catho parce que j'habitais en centre-ville quand j'avais jusqu'à mes 7 ans en tout cas.
Okay.
Donc CP, CM1, CE1, je les ai fait là-bas. Et du coup, CP, CM1, j'ai eu deux maîtresses trop gentilles. Tu sais, en plus, les maîtresses, c'est des mamans. Tu vois, c'est la deuxième maman. T'es encore petit, t'arrives à l'école, t'as 5 ans, 6 ans, tu dois retrouver une maman. Donc, j'avais deux maîtresses qui se partageaient à notre classe. Il y en avait une qui s'appelait Muriel et l'autre Sophie. Deux amours. Et en plus, j'étais très petit de taille. J'étais le plus petit. Et du coup, je me rappelle, toujours Muriel avait toujours du rouge à lèvres rouges, elle me faisait un bisou et tout, c'était cool. Après, en CM1, ouais, en CE1, j'ai eu une maîtresse qui s'appelait Pascal, qui mettait des manteaux d'hommes. Je me rappelle, elle était très masculine, c'était pas du tout ce que j'attendais, mais trop gentille, un cœur en or, une maman, elle me faisait des câlins et tout. Et après, en CE2, le trauma de ma vie, j'ai la femme du directeur de l'école. Madame Chiron, t'imagines la tête de ma mère, elle porte bien son nom, Chiron, la femme de Monsieur Chiron. Elle m'a détesté depuis le premier jour. Mon niveau, j'étais 23e sur 26. Donc j'étais classé parmi les derniers des derniers. Et en plus, le truc, c'est que moi, j'ai arrivé du bled en plus, tu vois. Et le niveau école catho-bourgeois du centre-ville, il était haut, sa mère. Et du coup, j'ai CP, CM1, ça s'est bien passé. Après, j'ai eu une dégringolade et elle m'a pas aidé du tout. Elle était méchante, très méchante. Elle me tirait les cheveux, elle me mettait des tapes sur la tête. Mais attends, je vais t'expliquer. Un jour, je l'ai traité de raciste. Et elle m'a traité par les cheveux, elle m'a mis dans un placard. Et jusqu'à 4h30, quand mon père est venu me chercher, elle a appelé mon père. Et elle lui a dit genre que ça se faisait pas de dire raciste. Et j'ai même pas 7 ans, la tête de ma mère, j'ai dit raciste, je savais qu'elle était raciste. Parce que en fait, toutes les bêtises que je faisais où je me faisais réprimander par des coups, les autres, mes camarades, quand ils les faisaient, Hugo et Thomas, en plus je m'en rappelle très bien, ils n'avaient rien. Et moi je me posais plein de questions, je me disais attends, mais ça veut dire que je suis mauvais, pourquoi c'est tout moi qui mange les coups, mais pourtant on fait les mêmes bêtises. Tu sais, on se bouscule dans le rang ou voilà. Et ça, pendant des années, dans ma tête, il y avait ce petit truc.
Il a dit quoi, ton père?
Mon père, il est gentil. Mon père, il a dit qu'elle avait raison et que elle m'a puni encore plus. Elle a dit qu'il fallait pas que je dise ça. Et lui, elle a dit oui. Il a dit, il m'a engueulé en plus sur la route. Il a dit, pourquoi tu dis raciste? Il dit pas raciste. C'est pas une raciste. Regarde, elle est toute gentille. Elle, non, boucan, elle est de ouf. Mais moi, je me rappellerai toujours d'elle. Et le pire, c'est pas ça. c'est qu'au milieu de l'année, elle part en stage. Donc, on a la dernière journée avec elle où elle dit, je vais partir en stage, il y a une remplaçante qui va arriver pendant 3 semaines. Et moi, je suis dans la file d'attente, et je vous jure, la vie de ma mère, j'ai pas 7 ans. J'ai 6 ans et demi, et on lui dit tous au revoir, il est 4h30, allez, au revoir, au revoir. Et moi, je dis adieu. Et elle me prend par un petit bout de cheveux comme ça, elle fait, dis pas adieu, je reviens dans 3 semaines, gros bêta! Et elle me secoue la tête. Eh ben, pendant ces 3 semaines avec mes parents, on est déménagé, je l'ai plus revu de toute ma vie.
Donc, t'avais raison.
Et j'avais raison. Je te jure,
il m'en Mais c'est hyper triste comme
ça. Et toute ma vie, non, c'est pas triste. En plus, toute ma vie, je me disais, et j'ai quand même dit adieu.
Et attends, quand tu dis centre-ville, c'était centre-ville de quelle ville?
De Cavaillon.
Ouais, de Cavaillon, oui. Hein, c'est ça. Ouais. Ce que je disais, ouais. C'était déjà à ce moment-là.
Ouais. Et quand j'ai déménagé, du coup, je suis arrivé à l'école de la cité, du coup, du quartier, parce qu'on a déménagé en quartier, dans un HLM. On habitait en ville, on n'avait pas de chauffage et tout, c'était trop galère. Du coup, le HLM, c'est trop bien parce que c'était chauffé, c'est bien et tout. Et je suis rentré, du coup, en mi-année en CE2. Le niveau, c'est pas le même. Je suis passé 4e de la classe.
L'école, t'as arrêté à quel âge?
J'ai un master, hein, moi. J'ai un master en achat international et une licence en management public.
Et finalement, voilà. T'as décidé de devenir acteur?
Eh oui, moi, après, je l'ai plus fait pour mes parents. Il faut faire des études. Enfin, j'étais ouvrier agricole, ma mère était au foyer. Ils venaient du Maroc pour que leurs enfants aient accès à des études convenables. Il était hors de question qu'on fasse pas d'études. Donc j'ai fait un truc qui permettait d'avoir une vie assez aisée. Tu peux travailler pour un grand lobby capitaliste et de faire de l'oseille.
Tellement bien.
Oh là là. Si tu m'avais vu à la Défense en costard cravate, parce que quand je suis arrivé à Paris, je suis arrivé pour finaliser mon master. J'étais agent commercial chez Nespresso.
Il y a tellement de gros doses sur toi. Bon, appel à tous les.
Non, moi je les sors avant, comme ça il y a personne qui sort des doses sur moi, parce qu'ils les connaissent tous.
Dis-moi. Ok, donc l'école contrastée, quoi, finalement, comme expérience. T'as appris le français en arrivant en France ou tu le parlais déjà quand t'étais
en France? Oui, j'ai appris en arrivant en France.
Ok. Ouais. Et du coup, tu parles combien de langues là?
Arabe, très bien. Français, très bien. Je me débrouille un peu en espagnol.
Ah, j'ai entendu tout à l'heure, super.
Non, j'avais des super. J'avais des profs d'espagnol, ils sont tous communistes. Mais oui.
Ben voilà.
Ils étaient trop gentils. On bouffait du fricadeau tout le temps, mais ils étaient trop gentils. Et ils étaient vraiment communistes. Ils nous parlaient de marijuana. Alors que nous, on avait 12 ans, 13 ans. Ils nous parlaient du régime, tu vois, il me disait, non, mais Chirac, c'est la droite, faut comprendre, il est pas de votre côté, tu vois. C'était trop bien. Mes profs espagnols, c'est des amours, que Dieu les bénisse.
Tu veux tirer encore?
Mais oui. Mensonge. Je pense que c'est pas l'un des 10 commandements pour rien, de ne pas mentir.
T'arrives à pas mentir?
Non.
Tu mens?
Ben, c'est notre société, on est comme ça, c'est obligé de mentir.
Ah
t'es
ouais?
T'es obligé de mentir dans cette société. Bien sûr.
Obligé de mentir?
Bien sûr. T'arrives à un moment où t'es obligé de mentir. C'est ça, c'est comme ça qu'on vit en société. On porte des personnages, on porte des costumes. Donc même quand on agit.
Ton dernier mensonge?
Mon dernier mensonge? Ah oui, dire que j'avais pas de réseau et que mon téléphone était éteint à mon chauffeur de taxi marocain ce matin parce qu'il voulait mon numéro pour qu'on ait un échange de la France et tout, si je pouvais lui envoyer un ordinateur pour son fils qui étudie et tout, j'en pouvais plus. Oui, parce que c'est ça, à chaque fois que tu montes avec un chauffeur de taxi et que tu es ouvert au dialogue, à la fin, cette personne-là, puisqu'on vient d'un pays très pauvre, on va te dire, oui, toi qui as l'opportunité d'être en France, est-ce que on peut garder contact pour que tu m'envoies quelque chose, etc. Mes enfants étudient et tout. Les gens sont en galère là-bas, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Horrible ce qui se passe. Les ghettos sont encore plus des ghettos. On enlève l'instruction de partout.
Ok. Et le mensonge, tu pardonnerais? Du coup?
Oui, mais il faut tout pardonner. Parce que quand tu pardonnes à quelqu'un, il se sent humain. Il a encore espoir en lui-même. C'est pour ça que les gens doivent se pardonner eux-mêmes. Du coup, ils peuvent aspirer à être mieux. Quand c'est quand tu pardonnes pas, justement, que tu laisses les gens, ils disent tout ça, on me pardonne pas, donc il se pardonne pas lui-même et il est encore plus dans la fille de puterie, tu vois. Il devient encore plus mauvais, en tout cas. Tu vois, ça marche comme ça, c'est très simple. C'est pour ça, le pardon, ça guérit tout. Faut surtout se pardonner soi-même.
T'as déjà découvert un gros mensonge que t'as fait?
Ah oui. Oui. En général, ça me gêne, moi, en plus.
Tu dis hein? Quoi, genre?
Non, ça me mettait moi dans une... Ça me gênait plus moi qu'autre chose, alors que c'était pas moi de me sentir gêné, mais c'est quand tu découvres un mensonge, c'est un peu comme si tu mettais le pied dans l'intimité de l'autre personne, tu vois, tu la grilles. Et c'est un malaise. Et ce malaise, t'es obligé de le partager parce que t'es là. Donc, tu fais quelque part un peu du mal, tu vois ce que je veux dire? Tu me mets dans une position, donc j'aime pas afficher les gens quand il y a un mensonge, j'accepte le truc en général.
Ok. C'était vachement intéressant ce que t'as dit sur l'intimité, du fait de percer le mensonge. Je suis assez d'accord avec ça, c'est vrai.
Avec mon pote, souvent quand on est gêné, on a envie de mourir.
Ouais, je vois très bien.
Je te jure.
Je te comprends.
Il y a des trucs, je me disais, mais franchement, il y a des trucs, j'ai passé l'âge d'être gêné à ce point, en fait. Je mérite plus, en fait, qu'on me gêne de cette manière-là. Il y a des gens aujourd'hui qui t'imposent de ces situations où t'es... Non, arrêtez, les gars, c'est bon, on connaît la vérité, c'est bon. En plus, en général, quand t'es menteur un petit peu, t'es grillé. J'avais vu un film, là, d'après le livre d'Emmanuel Carrère. C'était joué par Auteuil. Sur un mec qui a menti toute sa vie à sa famille et tout. L'adversaire.
Oui, l'adversaire, ouais.
Cette histoire, moi, m'a traumatisé. Parce que, à la base, ce mensonge de toute une vie qui a fini par l'assassinat, c'est une histoire vraie de ses beaux-parents, de sa famille, de ses enfants, etc. Et en plus, miskin. À la fin, il n'y a que lui qui restait en vie. Il n'a même pas pu sauter la vie. C'est parti d'un premier mensonge par ego où il s'était pété le poignet lors des examens, alors qu'ils avaient encore 22 ans, un truc comme ça. Il s'est pété le poignet juste avant les examens et il s'est pas présenté aux examens parce qu'il a eu peur que les amis disent « Ah ouais, genre il s'est pété le poignet pour éviter l'examen. » Donc il se pointe pas à l'examen, il a pas ses examens et à partir de là, il commence à mentir. Et il revient, il dit qu'il a ses examens, il dit qu'il fait ses études de médecine, il emboucane tout le monde jusqu'à tuer tout le monde à la fin. Mais c'est ça, il n'avait pas besoin d'avoir peur. Il s'est pété le poignet, c'est comme ça, il dit pas rien. Laissez les gens tranquilles.
Parfait. Encore. Si tu veux.
Oui, mais oui, moi, ça ne m'arrête pas, Très belle couleur.
Encore argenté, t'aimes bien, hein?
Colère.
Ah. Loin de toi, la colère?
Loin de moi.
Mais il y a quand même des trucs qui te mettent en colère, non?
Oui, mais loin de moi. C'est même les trucs qui me mettent en colère, c'est l'œuvre de Dieu, c'est comme ça. C'était écrit, hein? Tout est écrit.
La sagesse.
Mais c'est vrai, tout est écrit. Toute l'humanité, de comment elle avance et tout, tout ça, c'est écrit dans nos livres depuis le début. Donc
genre, t'as jamais de poussée de colère comme ça, un truc un peu sanguin?
Si. Et la dernière que j'ai eue, j'en ai une par an. Et à chaque fois, je me mets un... La dernière que j'ai eue, là, je me suis dit, non, c'est plus possible que je me comporte comme ça. C'est un état animal, c'est un état où t'es pas beau, t'es pas... Et en vérité, il n'y a personne qui mérite que je lui donne de la colère. La colère dans le corps, ça provoque tellement de mauvaises hormones, ça te nique tellement de l'intérieur. La jalousie, l'envie. En vérité, si tu vois que Dieu, il a fait quelque chose à l'autre, bah, tu te dis, si ça arrive à lui, ça va peut-être m'arriver à moi, même pire, tu vois, même mieux, quoi. Et en fait, toute cette anxiété, là, ce truc, là, d'envier les autres, de jalouser, d'être en colère, etc., ça se loge dans le foie. C'est là où on a la boule au ventre. Et le truc, c'est que c'est là où les émotions deviennent physiques. Notre état émotionnel nous détruit le corps aussi par la production de mauvaises hormones, de surproduction d'un truc, etc. Franchement, on peut se gérer émotionnellement la colère, en tout cas, et on peut la... parce que c'est on hyper trop, c'est nous qui y perdons.
Et est-ce que c'est un état que tu aimes jouer, par contre?
Oui.
Et ouais, voilà, c'est ça.
Faut bien que j'aille m'en délecter ailleurs, tu vois. C'est un état, c'est une émotion. Et oui, la ressentir, la... En tout cas, j'ai été assez colérique quand j'étais petit et tout. Du coup, c'est juste pour la refaire vivre, l'utiliser. Parce qu'elle est là, elle réside en toi, tu vois. Donc, faut l'expier quelque part.
Symphonie en dedans, ouais. rapé, ouais, ou pas télé, ouais. Ouais, à dans fond, ouais, c'est essayer, rider, c'est moi. Ouais, ouais, mon travail, c'est ton boulot en coulant, mais en coulant, mais.
Meilleur espoir, un vendredi sur 4 à 20h sur Radio Campus Paris.
En fait, Dieu t'entoure de personnes à ton image, tu vois, et avec les mêmes élans que toi, avec les mêmes aspirations. Mais si t'es con, ben, t'es entouré de cons, tu vois, et du coup, t'es dans un truc où avec les gens, il n'y a pas de confiance, il y a de la jalousie, il y a toujours un truc de t'as envie de gagner sur l'autre. Ça, c'est les préceptes de l'enfer, ça. C'est
toi, tu dirais que t'es bien entouré.
Ouais, très bien entouré. Ah, je choisis maintenant. J'ai été longtemps trop mal entouré. Trop entouré. Et maintenant, non, je suis très bien entouré. C'est que je me bats pour garder mes amis. On se bat pour se garder les uns les autres. On se dit tout. C'est un levier qu'avoir des vieux amis. C'est comme ils se millésiment avec le temps, tu vois. Du coup, ils sont, le fait de leur parler, d'échanger avec eux, c'est un poids en moins, c'est très fort. T'as pas besoin de psy quand t'as des amis de longue date, parce qu'on se comprend. Et ce que je dis beaucoup, en fait, c'est les amis, plus tu les gardes, moins tu vieillis. C'est-à-dire que, je sais pas, quand t'auras 70 ans, ben les gens te verront comme un mec de 70 ans, mais la personne qui t'a connu à 20 ans te verra toujours comme tu étais à 20 ans, et toi aussi, et vous communiquerez toujours de la même manière. Donc en fait, c'est plus t'as d'amis, de meilleurs amis, plus c'est le début du paradis. Moi, je dis toujours qu'un meilleur ami, c'est le début du paradis. Parce qu'au paradis, tout le monde est meilleur ami. Tu vois, tout le monde est... Tu penses même pas à toi. Tu penses juste à tout le monde. Et comme t'es avec tout le monde pense à toi. Tu sais, c'est l'inverse de quand t'es égocentré, que tu penses qu'à toi et que tu tires par là parce que t'as peur d'avoir faim, t'as peur de manquer, t'as peur et tu amasses, et tu te noies dans ton truc, tu vois. Et t'as pas d'amour, tu te sépares de tout le monde. Tout le monde est séparé, tout le monde est seul. Du coup, t'es là, t'amasses, tu t'entoures de plastique et tu te retrouves seul dans ton plastique. Tu vois? Et t'es pas entouré de gens, et voilà.
Du coup, qui de ton entourage, enfin, je pense que c'est de ton entourage, mais qui serait un prochain et meilleur espoir selon toi?
Mon meilleur espoir, c'est Saïd El Lamy. C'est mon meilleur pote. Et pour moi, il n'y a aucun comédien qui traite ces personnages avec autant d'empathie. Aucun jeune comédien qui se bat pour être au plus près des émotions de ces personnages jusqu'à de ressentir le plus profond des rôles qu'il joue pour transmettre une émotion vraie. Parce qu'en général, en plus, il joue des rôles qui défendent des causes, etc. Donc, j'avais dans Usekin, il y avait eu Messiah. C'est une série américaine. Il avait joué une scène où il affrontait un soldat. C'était un Palestinien qui affrontait un jeune enfant palestinien qui affrontait un soldat israélien nu. Et du coup, il avait pu passer sur la frontière israélienne. C'était très fort ce qu'il avait à jouer.
Et du coup, il se mettait dans des états, il porte l'humanité sur son dos, lui, tout le temps, donc, et la deuxième que je recommande aussi pour l'émission, parce qu'elle a plein de trucs intéressants à dire, c'est déjà une espoir, c'est Oulaya Mamra. Et je pense qu'elle sera très très contente de faire ta rencontre, parce que vous êtes aussi solaire l'une que l'autre, donc vous allez bien vous amuser.
Ouais, et en plus, je repars avec un compliment. Merci beaucoup, Samir.
Merci
C'était
à toi.
C'était un moment, tout à fait unique et vraiment très spécial dans la courte histoire de cette émission, en tout cas. Merci beaucoup.
Trop bien, merci beaucoup.
Set the cheetahs on the loose. There's a thief out on the move. Underneath our legion view. They have taken Cleopatra. Run, Cleopatra, come back for my Cleopatra, glory. Bring her back to me. Cleopatra, Cleopatra, run, Cleopatra, the crown of our battle, the throne of our kings and kings. Shining like diamonds in a rocky world. Rocky world. Our skin like bronze and our hair like cashmere. As we march to the rhythm on the palace floor. Ooh, chandeliers inside the pyramids. Tremble from the force. Cymbals crash inside the pyramids. Voices fill up the house. Set the cheetahs on the loose. There's a thief out on the moon. But you love Africa, jewel. What good is a jewel that ain't still precious? How could you run off on me? How could you run off on us? You feel like God inside that gold. I found you laying down with Samson and his full head of hair. I found my black queen clean. Cleopatra, bad dreams, Cleopatra. Bullbacks and the cheetahs to the tomb. Silver, our queen as men adore. No more, she lives no more. Serpent. Cleopatra, Cleopatra.